C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Partons aujourd'hui à Havresac, un petit royaume où il y a malheureusement beaucoup de malédictions. Alors, chers joueurs, Havresac compte sur vous pour sauver son royaume. Mais un seul d'entre vous y arrivera, à vous d'utiliser vos gardiens au bon moment. Les gardiens d'Havresac est le nouveau jeu de Frédéric Guérard, superbement édité par Catch-Up Games, avec des illustrations signées Sabrina Miramont. Les gardiens d'Havresac est un jeu de bad building, bad veut dire sac. Alors comme dans Orléans ou les charlatans de Belcastel, vous allez piocher dans un sac. Là, vous allez piocher des aventuriers que vous allez envoyer dans votre royaume pour remporter de la gloire en battant des monstres, en récupérant des fées, ouvrir des coffres ou encore réparer des villages. Avant de commencer à jouer, eh bien chaque joueur récupère son plateau aventure, place ses coffres, les jetons des villages et son sac expédition avec 5 gardiens comprenant un guide, 2 guerrières, une prêtresse et un voleur. On verra leur capacité après. Ensuite, eh bien, on va faire un tirage de cartes et on placera des monstres à des endroits précis sur notre plateau. Tous les joueurs commencent avec la même configuration. Dans les gardiens de Havresac, il n'y a pas de temps mort, tout le monde joue en même temps. Tout d'abord, le joueur actif que l'on appelle l'éclaireur va piocher 5 cartes afin de placer de nouvelles créatures sur le plateau des joueurs. Par exemple, il va le dire, le crocodile doit être posé sur D. Eh bien, tout le monde prend le meeple crocodile et le pose sur la lettre correspondante. Voilà, votre plateau est prêt, on peut commencer l'aventure, c'est la phase la plus importante du jeu, puisque l'on va tirer des jetons aventuriers de notre sac. Et chaque joueur le fait à son rythme. Le premier gardien que vous allez tirer part du château et les autres peuvent partir d'un autre jeton aventurier ou d'un campement. Chaque gardien aventurier, en plus de son déplacement, a une capacité que l'on peut utiliser. Certains pourront battre des monstres comme la guerrière ou traverser les forêts ou les lacs comme le druide. Mais sinon, les autres aventuriers sont bloqués par les monstres ou par les lacs ou par les forêts qui sont infranchissables. Le voleur, lui, pourra récupérer les coffres pour vous donner des bonus. L'archer pourra tirer à distance. Le guide lui pose une tente. Cela vous permet de repartir de ce nouveau point lors de la prochaine manche. Sympa ce petit campement, surtout qu'un gros cochon est à quelques pas. Chaque aventurier a sa capacité et a un déplacement spécifique orthogonal. Au fur et à mesure de la manche, vous allez comme dessiner votre aventure sur le plateau. Déplacer vos aventuriers va servir notamment à réparer des villages. Dans ce cas, on récupère un jeton village que l'on place sur la case. On va aussi pouvoir capturer une fée qui nous rapportera des points. Les monstres que la guerrière a battus iront dans la zone de stockage de votre plateau. Alors, et puis quand tout le monde a joué ses gardiens, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de jetons aventuriers dans le sac, certains joueurs iront peut-être plus vite que d'autres. Dans ce cas, on les attend. Pas 3 heures non plus. On passe à la phase de la gloire. En fonction du type de monstre que vous avez battu, vous aurez plus ou moins de points. Celui qui vous rapporte le plus de points, c'est le cochon qui vous donne 3 points. Toutes les créatures que vous avez éliminées, vous les placez ensuite sur votre tableau de chasse, qui, selon le nombre, vous rapportera un certain nombre de points de victoire en fin de partie. Les fées que vous avez capturées vous rapportent des points de gloire, tout comme les villages réparés. Le total de tous ces points de gloire vous donne de l'argent et un certain nombre de victoires. Exemple, j'ai 4 points de gloire, ça me donne 6 pièces et 1 point de victoire. Mais à quoi ça me sert ces pièces d'après vous? Elles vont me servir à recruter de nouveaux aventuriers. Je veux un nouveau guide, eh bien je paye 4 et je mets ce nouveau jeton dans mon sac expédition. Chaque aventurier a un coût différent. D'ailleurs, si j'ai assez d'argent, je peux en recruter plusieurs par tour. Voilà, eh bien, on peut démarrer une nouvelle manche. On met des tentes sous les guides, puis on remet tous les aventuriers posés sur le plateau dans le sac et les fées non capturées retournent dans la réserve. Les autres choses, comme les monstres coffres, restent sur place pour la manche suivante. On reprend 5 nouvelles cartes pour placer les monstres sur le plateau, on repioche dans le sac et ainsi de suite. Forcément, plus on avance dans les manches et plus on a d'aventuriers et de possibilités. Bon, il y en a d'autres qui ont moins dans le sac, forcément. On fait ça 5 fois, puis on calcule le score final en ajoutant 2 points pour les coffres que l'on a récupérés et on regarde le score atteint sur son tableau de chasse. C'est en fonction des monstres que l'on a battus. Si vous êtes le joueur avec le plus gros score, en plus d'être le gagnant, vous êtes le seul sauveur du royaume d'Havresac. Et ça, ça n'a pas de prix. Retournez le plateau, vous verrez, il y a une face hiver que je vous laisserai découvrir. Ce nouveau jeu de Frédéric Guérard nous emmène dans une aventure. À nous de la planifier au mieux et de faire les bons choix. Personne d'autre viendra vous mettre des bâtons dans les roues. Vous êtes seul face à votre destin. Les gardiens d'Havresac, un vrai coup de cœur de toute la famille, sans exception de ce début d'année 2022. Craig David qui débarque sur Millennium. Juste après, on retrouve Vianney pour Rétroludique.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et vous le savez, tous les jeudis, on retrouve Vianney de Terre de Jeux à Rennes. Salut Vianney.
Mathieu, salut à toutes et tous.
Bon, alors Vianney, c'est Rétroludique. On va parler d'un jeu un petit peu plus ancien. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Vianney?
Eh ben, on va causer d'un jeu qui a été fait par Théo Rivière et Maxime Rambourg,
ouais,
illustré par Simon Caruso, qui est sorti il y a quelques années du coup chez Catch Up Games, qui s'appelle The Loop.
Bien, The Loop, ouais, effectivement, un jeu coopératif.
Ouais, exactement. C'est un jeu coopératif qui se dédie plutôt à des gens qui ont un peu l'habitude de jouer, parce qu'on est sur un jeu qui va être légèrement technique. On n'est pas sur le niveau de jeu des jeux dont j'ai parlé les dernières fois, type Dragomino ou ce genre de choses.
Ouais.
The Loop, ça va durer une petite heure de jeu, et c'est un jeu en fait qui a une particularité forte, c'est de reprendre la mécanique du deck building qui a été inventé par Vaccarino il y a ça une bonne dizaine d'années avec le jeu de Dominion. Une petite mécanique qui en gros permet d'avoir un paquet de cartes qui nous est dédié et dans lequel on va aller customiser son paquet par l'acquisition de cartes au fur et à mesure de la partie. Dans The Loop, en gros, on se retrouve avec une thématique totalement barge, qui est celle de Minus et Cortex. On a un espèce de docteur fou qui a foutu le bazar dans le temps et l'espace, dans le futur, dans le passé.
Ouais.
Et nous, on joue des agents de l'agence du temps, et on va essayer de casser la binette à ses clones et de réarranger tout le temps et l'espace. Donc pour ça, on va jouer des personnages qui ont tous des spécificités bien précises, des petits pouvoirs, notamment par leur deck, leur paquet de cartes respectif. Au fur et à mesure de la partie, du coup, on va pouvoir customiser ce paquet de cartes en acquérant de nouvelles cartes. C'est très intelligent dans la manière de se jouer. Déjà, d'une part, parce qu'il y a un paquet de cartes qui est très réduit en début de partie. Mmh. On a 6 cartes et partout, on va en utiliser 3. Donc, très vite, on va se retrouver à refaire les mêmes actions et du coup, à comprendre de mieux en mieux comment on joue son personnage, essayer d'optimiser tout ça. C'est très intelligent. Et la petite mécanique très rigolote du jeu qui a donné son nom au jeu, c'est la mécanique du loop, donc de la boucle temporelle. En fait, le principe du jeu, c'est qu'en jouant ces cartes, on va pouvoir les réutiliser, remonter dans le temps pour les réutiliser une seconde fois. Ça va nous demander un peu de préparation, d'utiliser en gros le plateau de jeu pour bien se positionner, créer de l'énergie à certains endroits, pour utiliser cette fameuse énergie pour ensuite réutiliser des cartes. Ça peut être réutilisé une seconde fois, et voire même, si on se débrouille bien, une troisième, une quatrième fois. Ça crée des sensations qui sont hyper intéressantes de synergie, de combos, qui sont assez nouvelles, en fait, dans la sensation du deck building, où souvent, un deck building, on va jouer sa main, piocher des cartes dans son deck et utiliser les autres cartes. Là, on va se contenter, justement, de optimiser les cartes qu'on vient de piocher pour éventuellement les réutiliser plusieurs fois.
Ouais.
C'est super réussi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça brillant. Je sais pas toi si t'as joué,
si
t'en as
pensé. Ouais, pour moi, c'était, donc, là, il y a 2 ans, hein, c'est ça? C'était ouais, l'un des meilleurs coopératifs, hein, de l'année.
Eh ben écoute, on a le même avis et mon collectif Diano et moi partageons aussi cet avis. Ça fait partie des jeux qu'on a vraiment beaucoup beaucoup aimé, qu'on conseille beaucoup. On avait aussi beaucoup aimé à l'époque le précédent jeu de Maxime Rambourg coopératif qui était Big Book of Madness, qui est un jeu beaucoup plus vieux, mais qui fonctionnait déjà avec du deck building dans un jeu coopératif de plateau. On retrouve ces quelques sensations-là de jeu avec beaucoup de pression mise par le jeu qui va vraiment essayer de te mettre des embûches d'un peu partout. C'est très très intelligent à jouer. Ça reste un jeu, comme je disais, hein, faut quand même être assez alerte. Les règles sont assez simples à prendre en main, mais par contre, il y a beaucoup d'effets de cartes dans tous les sens. Faut être un petit peu agile sur la capacité à comprendre ces effets, à comprendre leurs interactions les uns avec les autres. Donc, ça demande une petite habitude de jeu. Par contre, c'est le format qui est très intéressant. Je trouve que c'est la durée qui est de moins d'une heure qui est assez géniale, quoi.
Ouais, et puis il y a ce petit côté où va tomber la petite gemme, là. Tu te dis, allez, cette fois-ci, c'est bon. Eh ben non.
ouais, ça, c'est vraiment excellent. Parce que c'est vrai que ça fait partie des petits trucs rigolos du jeu aussi. Ils ont géré l'aléa par une construction d'un objet en 3 dimensions,
ouais,
qui est une petite tour dans laquelle on vient mettre des cubes qui peuvent être expédiés dans 3 directions différentes. Donc c'est un peu comme si tu lançais, je sais pas, un D3, quoi, qui te dit 1, 2 ou 3, ça va là. Sauf que d'un point de vue physique et rigolo d'édition, c'est sympa, t'as vraiment un espèce de stress au moment où tu balances tes cubes dans la tour.
Ouais,
là,
et tu sais pas où ça tombe.
Tu serres les fesses en disant « J'espère que ça va pas aller à gauche, j'espère que ça va pas aller à gauche !» C'est vraiment très bien foutu. C'est assez... moi, j'ai vraiment trouvé ça génial. En plus, ils font pas avoir de contenu, il y a 4 scénarios différents qui se jouent de manière très différente. On va vraiment changer sa manière de jouer et d'anticiper les tours, ne serait-ce que par exemple avec le 2e scénario où il y a un système d'énergie permanente, où du coup ce fameux principe de loop qui d'habitude nous coûte de l'énergie, bah là va être beaucoup plus facile à déclencher par le fait qu'il y a des endroits où l'énergie ne se dépense pas et reste tout le temps. C'est vraiment, enfin, pour moi, ça fait partie des très grands jeux coopératifs des 5-10 dernières années, et effectivement il y a 2 ans c'était Unchallengeup, c'était sûrement le meilleur coop il y a 2 ans.
Alors je sais pas si tu as testé l'extension qui
Eh ben, pas encore.
Pas encore.
Pas bah, moi encore. Non plus. Comme je disais, le contenu est assez avare dans le jeu de base. Enfin, pas avare, au contraire, assez riche de contenu. Du coup, j'ai pas pris le temps d'essayer l'extension dans lequel il y a deux nouveaux personnages et je crois deux nouveaux scénarios en plus de nouvelles cartes à acquérir. Donc ça fait encore plus de contenu de dingue. J'ai pas fait le tour du jeu de base encore. J'ai fait, je pense, je suis pas loin de la quinzaine de parties, ce qui pour moi est assez énorme sur un jeu. En général, je dépasse pas les 2-3 parties avec le métier qu'on fait. On est obligé d'essayer plein de jeux différents.
C'est sûr.
Mais là, The Loop, moi, je pense, je peux encore en faire 15 ou 20 du jeu de base sans avoir à acheter l'extension.
Ouais, ouais. Eh ben, merci beaucoup, Vianney, de nous avoir parlé de The Loop, d'avoir fait ce retour en arrière sur The Loop. On se retrouve...
Dans mauvais jeu de mots, en plus, je suis revenu dans le temps.
Mais oui, c'est ça, t'es revenu dans le temps. Et t'es revenu même à l'heure. Salut, Vianney, à jeudi.
Salut, Mathieu.